Je passe maintenant, je suis désolé de devoir simplement changer de casquette, à la présentation de notre orateur d'aujourd'hui, qui donc va ouvrir le feu sur les questions que j'ai essayé de poser. Guy Strumsa est né en 1948 à Paris de parents d'origine grecque, tous deux rescapés de la Shoah. Après des études supérieures à l'école normale israélite orientale, alors dirigée par Emmanuel Levinas, qui ne fut pas notre confrère, puis à l'université hébraïque de Jérusalem, il poursuivit à Harvard avec un PhD sur une secte gnostique connue par les textes coptes de Nag Hammadi. Guy Strumsa est actuellement professeur émérite de deux universités. L'université hébraïque, où il a fait toute sa carrière jusqu'à obtenir en 1991 la chaire Martin Buber de religion comparée. Et l'université d'Oxford, où il a occupé la chaire d'études des religions abrahamiques entre 2009 et 2013. Il a été professeur ou chercheur invité dans les universités et centres de recherche les plus prestigieux en France, Italie, Espagne, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni. Il est depuis 2008 membre de l'Académie israélienne des sciences et des humanités et docteur honoris causa de l'Université de Zurich. Guy Strumsa a reçu le prix Humboldt, le prix Léopold Lucas et le prix Rothschild. Il est chevalier de l'Ordre du Mérite. Guy Strumsa est l'auteur de 18 livres en anglais et en français, éditeur ou coéditeur de 21 ouvrages collectifs. L'année passée, il a publié pas moins de 3 monographies. À Oxford, The Idea of Semitic Monotheism, The Rise and Fall of a Scholarly Myth, et à Tübingen, The Crucible of Religion in Late Antiquity, ainsi que Religion as Intellectual Challenge in the Long 20th Century. Le domaine de recherche de Guy Strumsa est double. Il étudie d'une part l'univers religieux de l'Antiquité tardive, en gros la première moitié du premier millénaire, donc judaïsme, christianisme, gnosticisme, manichéisme, jusqu'à l'islam. Il réfléchit d'autre part sur l'histoire de sa propre discipline, sur sa naissance et sur les diverses présuppositions des représentants de celle-ci. Guy Strumsa n'accepte jamais telles quelles les notions par lesquelles ses collègues ont tenté de penser le foisonnement des phénomènes religieux. J'ai donc pensé à lui pour clarifier la notion très répandue de religion de salut. Guy, je te salue, si j'ose jouer sur les mots, et je suis heureux de te céder la parole.
Chers collègues, en m'invitant à ouvrir cette série de réflexions sur l'idée de salut qui vous occupera une année entière, à moins que le Messie arrive ou revienne d'ici là, mon cher et vieil ami le président Rémi Brague m'a fait un honneur immérité, et j'ai bien peur qu'il se soit égaré. Le salut du monde, hélas, n'est pas mon affaire. Connaissant mes limites, Rémi a toutefois précisé que c'est seulement le concept de religion de salut qu'en tant qu'historien des religions, il me demande d'éclaircir. L'exercice est en fait moins simple qu'il n'y paraît à première vue. On découvre vite que le concept de religion de salut, qui semble aller de soi, n'est en fait pas utilisé de façon courante par les historiens des religions. Les premières études globales dédiées à l'histoire des religions n'y font pas référence. Ainsi, le précurseur Christoph Meiners, dans son Histoire générale et critique des religions, propose, au début du XIXe siècle, une taxonomie des religions qui traite successivement du fétichisme, du culte des morts, de celui des étoiles et de l'idolâtrie. De même, vers la fin du siècle, le manuel du Huguenot de Leyde, Chantepie de la Saussée, qui restera pendant pour plusieurs décennies un livre classique, traite des religions des Naturvölker, des peuples naturels, et de celles des Indo-Germanen face aux religions des Sémites. Mais aucun chapitre n'est consacré aux religions du salut. Un autre travail important à l'époque, clé pour le développement de la discipline dans les dernières décennies du XIXe siècle, est celui du néerlandais Thiele, qui rejette le concept de religion de salut, qui ne lui semble pas pertinent ou être de grande utilité heuristique. Son traité, lui aussi, parle des religions animistes et de celles des Chinois, avant de discuter de celles des Hamites et des Sémites, puis, enfin, celles des Indo-Européens. Le terme n'a pas non plus droit à un chapitre dans le manuel du jésuite Pinard de la Boulay. Quant au phénoménologue des religions, ni le Hollandais Gerardus van der Leeuw, ni le Suédois Georg Widengreen ne semblent s'y intéresser dans leurs livres systématiques et synthétiques. De même, plus récemment, le terme n'est analysé nulle part dans les deux volumes sur l'histoire des religions publiés sous la direction d'Henri-Charles Puech dans la bibliothèque de la Pléiade, et Salvation Religions ne figure même pas dans l'index de l'Encyclopedia of Religion, publié en 16 volumes sous celle de Mircea Eliade. Le mot même de salut au sens religieux du terme nous vient bien entendu du latin des chrétiens, puisque salus, dans la langue des anciens romains, se réfère avant tout à l'intégrité physique de la personne, même si cette intégrité peut avoir des dimensions morales et parfois même, dans un sens métaphorique, religieuse, par exemple quand il s'agit du salus de l'empereur. Pour les chrétiens de l'Antiquité tardive, salus traduit le grec soteria. Ainsi Jérôme rend « quia salus exudeis est » le grec du Nouveau Testament « hoti esoteria ecton iudaion estin » Jean 4, 22, un verset qui a marqué entre autres Léon Blois et que les Deutsche Christen, dans les années 30 du siècle passé, avaient expurgé du texte sacré. Chez les Septante, soteria, à son tour, renvoie essentiellement, pour être précis, 138 fois, à l'hébreu Yeshua, un concept auquel se réfère directement le nom de Josué, Yeshua, littéralement Dieu et salut, et donc celui de Jésus, Yeshua. Sans prétendre offrir ici une étude philologique, il y a ici même, c'est-à-dire dans la salle dans laquelle vous êtes et dans laquelle je ne suis pas malheureusement, une autre académie pour cela, et d'excellents dictionnaires nous ont facilité le travail. On peut toutefois remarquer la polyvalence de l'idée de salut dans la Bible hébraïque et aussi donc dans ses traductions, dès la Septante. Hoshia, il a sauvé, est proche pour le sens d'autres racines verbales, telles que pada, kitzil, gaal. Pada, terme juridique à l'origine, représente la rédemption d'un homme, d'une dette. Kitzil fait allusion à un danger auquel on a échappé. Quant à Gaal, son champ sémantique est plus large et fait référence à la fois aux dimensions individuelles et collectives du salut. Citons au moins un verset. Ainsi parle l'Éternel, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut, Yeshuati, est près d'arriver, et ma justice de se révéler. Isaïe 56, 1. Le salut ici est celui que Dieu seul détient et qu'il révélera à Israël et à travers Israël à l'humanité entière. Il faut signaler tout de suite sa caractéristique première. Si c'est de Dieu que vient le salut, c'est à la pratique humaine de la justice, tzedek, qu'il est directement lié. Extra justitiam nulla salus, pourrait-on dire, en faisant écho à l'expression de Cyprien de Carthage, qui limitait dans son épître 73 au seul chrétien, orthodoxe évidemment, le salut, extra ecclesiam nulla salus. Ajoutons que le verset d'Isaïe ne fait pas mention du Messie, une figure qui n'apparaît qu'assez tardivement dans la religion d'Israël. Le salut de l'humanité passe par la justice entre les hommes et par des relations honnêtes entre les nations. Voilà une leçon biblique que n'oublieront pas les rabbins de la Mishnah et leurs herméneutes. La seule différence entre notre monde et l'époque messianique, dit le Talmud, tient à la fin du colonialisme impérial. À l'époque, il s'agissait de celui des Romains. Mais la leçon tient pour tout colonialisme, pour tous les rapports entre nations fondés sur l'injustice infligée par le fort sur le faible. La tradition herméneutique moderne oppose le salut collectif, celui du peuple, ou par extension de l'humanité, tel qu'on le trouve dans la Bible hébraïque, au salut personnel, en particulier à celui que proclame le christianisme. Plus précisément, dans cette tradition, le salut exige pour le judaïsme une dimension publique qu'il perd dans le christianisme, où, établi sur la foi en la personne de Jésus-Christ, il est décerné à l'individu par le mystère de la grâce divine. La cité de Dieu, l'opus magnum d'Augustin, pensée et formulée sous le coup de la conquête de Rome en 410 par le roi Wisigoth Alaric, représente sans doute l'effort le plus audacieux et le plus radical pour réinterpréter dans les catégories chrétiennes la conception juive de salut de l'humanité, pour en conserver, en les modifiant, les dimensions collectives. L'idée même de salut implique une opposition radicale entre l'état de la personne ou de la communauté sauvée et toute situation de non-salut. Qu'il soit personnel ou collectif, le salut implique une transformation intégrale du soi dans le premier cas, du monde dans le second. L'ambiguïté entre dimension personnelle et collective du salut, en fait, est essentielle au concept même, car on passe naturellement de l'individu à la communauté et vice-versa. Tout comme l'usage commun, le vocabulaire savant identifie trop souvent rédemption et salut, alors que dans le sens non métaphorique, seul le premier de ces termes fait avant tout allusion à une transformation de l'individu. Ainsi, par cette identification, l'idée de salut se trouve trop souvent limitée à ses dimensions personnelles, évacuant pour ainsi dire, sans presque qu'on s'en rende compte, ses dimensions collectives. Un pas de plus, et l'idée de salut religieux devient pratiquement identifiée à celle du salut chrétien, c'est par la foi au Messie, mort précisément pour nous racheter du péché, que l'individu peut être sauvé. Comme pour toute discipline historique, ce sont les chercheurs qui font l'histoire des religions. Eux-mêmes sont définis par leur propre milieu culturel et religieux. L'effort des premiers historiens des religions, tous des chrétiens, au moins au sens culturel du terme, dans l'Europe moderne, fut avant tout taxonomique. Comment organiser notre savoir sur les religions de l'humanité à travers les continents et au passé comme au présent ? Et comment classifier ces religions ? La taxonomie la plus traditionnelle, héritée du Moyen-Âge, oppose les religions païennes ou polythéistes aux religions monothéistes. Si le christianisme est la seule religion vraie, vera religio, dit Augustin, le judaïsme et l'islam, religion erronée, false religiones, hérésie en quelque sorte, l'une en amont, l'autre en aval du christianisme, partage avec cette religion l'idée du Dieu un. Pour identifier cette famille de religions, judaïsme, christianisme et islam, on utilise aujourd'hui couramment le concept de religion abrahamique, un concept relativement récent. Ce n'est que plus tard que se forma le concept de religion de salut dans la nouvelle discipline de l'histoire des religions, Religionswissenschaft en allemand, Comparative Religion en anglais. Le terme n'apparaît pas avant l'apogée de la discipline vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle, même s'il puise à des sources plus anciennes, en particulier à l'approche de l'histoire des religions dans la philosophie romantique. En allemand, deux termes sont utilisés pour représenter l'idée de salut, das Heil à côté de die Erlösung. Le premier, statique, fait référence à un état, le second, dynamique, à un processus, impliquant aussi l'existence d'un sauveur, der Erlöser. Il faut remarquer cependant qu'il est difficile de noter une différence sémiotique nette entre ces deux termes, à la fois dans l'usage courant et dans la langue théologique. Les savants allemands, qui les premiers dans la dernière décennie du XIXe siècle parlent d'Erlösungsreligionen, de religion de salut, enseignent dans des facultés de théologie protestante. Ces savants sont à la fois les héritiers et les continuateurs d'une longue tradition théologique qui, trouvant ses racines dans les écrits de Luther, prend son essor chez les théologiens protestants du romantisme allemand. Pour Friedrich Schleiermacher, 1768-1834, celui dont l'influence fut la plus profonde et la plus durable, l'idée de salut ou rédemption, Erlösung, est l'essence même du christianisme. Dès le départ, son ouvrage majeur, La foi chrétienne selon les principes de l'Église évangélique, définit le christianisme, la plus parfaite de toutes les formes de religion, comme la religion monothéiste dans laquelle tout tient à la rédemption par la personne de Jésus-Christ. Une telle centralité de la rédemption, ajoute-t-il, ne se retrouve dans aucune autre religion, pas même dans les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. En fait, pour Schleiermacher, le judaïsme comme l'islam, malgré leur indéniable caractère monothéiste, font problème par certains de leurs traits fondamentaux et leurs croyants peuvent être comparés à des polythéistes. Dans le présent contexte, l'attitude de Schleiermacher vis-à-vis du judaïsme est plus importante que celle qu'il a vis-à-vis de l'islam. Pour lui, malgré les origines juives de Jésus, le judaïsme, qualifié dans ses discours sur la religion de religion morte depuis longtemps, n'est pas plus pertinent pour comprendre la genèse du christianisme que les religions grecques et romaines, où le monothéisme apparaissait déjà en filigrane avant la naissance de Jésus, ou en germe. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un retour à Marcion et à la dévaluation théologique de l'Ancien Testament et de l'Historia Sacra. Jésus ne s'inscrit plus dans l'histoire d'Israël. Ce point, d'abord élaboré par Schleiermacher, marquera profondément l'enseignement des facultés de théologie protestante en Allemagne. Il est d'une importance capitale pour comprendre la genèse de l'idée de religion de salut telle qu'elle apparaîtra chez les historiens des religions vers la fin du siècle. C'est précisément contre cette tradition que s'insurgera Nietzsche, pour lequel l'idée de rédemption, Erlösung, est un concept négatif et profondément nuisible, justement à cause de ses connotations chrétiennes. Wilhelm Bousset, un spécialiste du judaïsme, du Nouveau Testament et de la gnose, est l'une des figures de proue de l'école de l'histoire des religions, Religionsgeschichtliche Schule, de Göttingen, dans les années 1890. Il traite de l'idée de Erlösungsreligion, en particulier dans un livre de haute vulgarisation, L'essence de la religion. Pour Bousset, le terme fait avant tout référence au courant religieux fondé par le Bouddha et Platon, qui l'oppose aux religions légalistes, Gesetzesreligionen, le judaïsme, le parsisme, c'est-à-dire le zoroastrisme, et l'islam. Les religions de salut sont pour lui les religions les plus élevées. Le prophétisme israélite, qu'il conçoit comme étranger au judaïsme, et le christianisme. Dans les religions de salut, la conscience rejette la vie ordinaire pour lui préférer une existence spirituellement plus élevée. Comme le bouddhisme se définit en s'opposant à l'hindouisme polythéiste, le christianisme s'oppose au judaïsme légaliste, mais la foi chrétienne, la plus élevée dans l'histoire des religions, est aussi supérieure aux religions de salut. La taxonomie développée par Bousset, toutefois, reste celle d'un théologien pour lequel le christianisme représente un unicum, une catégorie en soi dans l'histoire des religions. Ailleurs, le christianisme est considéré comme l'exemple le plus pur d'une religion de salut. En tant que tel, le christianisme souligne le caractère subjectif, intérieur à la personne et sa forme la plus spirituelle, le protestantisme, est perçu en opposition à une religion avant tout définie comme ses rituels, comme la religion romaine, le judaïsme ou le catholicisme. Même si certains ecclésiastiques catholiques, en particulier parmi les missionnaires en Asie et au Nouveau Monde, avaient manifesté dès les débuts des temps modernes un intérêt profond pour l'étude des religions, à une époque où les théologiens protestants n'en exprimaient encore aucun pour les religions non chrétiennes, l'approche comparative ne pouvait en aucun cas, pour eux, toucher au christianisme, religion sui generis, la seule vraie et donc incomparable, incommensurable aux autres religions, toutes fausses. C'est dire que les savants allemands protestants étaient aussi des théologiens, profondément marqués par leur éducation et leur identité religieuse. Pour eux, le salut, qui reste essentiellement individuel et implique une évasion du monde d'ici-là, représente le noyau dur de la religion. On se doit de noter l'existence chez les neurologues et les psychologues vers la fin du XIXe siècle, quand les historiens des religions allemands formulaient l'idée de religion de salut, d'une puissante vague d'intérêt pour les phénomènes de dissociation de la personne. Une telle coïncidence chronologique ne me semble pas fortuite. La fascination à cette époque pour les phénomènes psychologiques se retrouve dans les approches des historiens des religions protestantes, pour lesquels le besoin religieux de salut personnel, accompli par les phénomènes d'extase dans les religions hellénistiques à mystère et les diverses traditions mystiques, ainsi que la sortie de l'âme hors d'un monde condamné par sa matérialité essentielle, semble faire écho au puissant attrait émotif et intellectuel du dédoublement de soi dans certains phénomènes psychologiques. En quelque sorte, le salut de l'individu représente aussi un phénomène radical de dissociation psychologique. À côté du double sens personnel et collectif du salut, les historiens des religions distinguent le salut atteint par les seuls efforts de l'individu de celui qui nécessite l'intervention d'un sauveur. Les religions indiennes, c'est-à-dire à côté de la tradition védique, le jaïnisme et le bouddhisme, représentent l'exemple parfait de conception autonome de l'idée de salut, où l'homme se sauve par la transformation qu'il accomplit seul en lui-même. Les conceptions hétéronomes, celles qui nécessitent l'action d'un sauveur, aidant les humains à trouver la voie du salut, se retrouvent sous des formes diverses dans les religions apparues dans le Proche-Orient ancien. Comme le christianisme fait partie de ces religions et que les savants européens qui, au XIXe siècle, créent en tant que discipline l'histoire des religions sont des chrétiens, au moins dans leur culture, ou des juifs, c'est surtout le salut apporté par un sauveur qui va nous préoccuper ici. C'est bien dans le cadre d'une réflexion sur les origines chrétiennes, entre apocalyptique et gnose, que naît l'idée de religion de salut. Que ces origines s'inscrivent dans le cadre du judaïsme, c'est l'évidence même. Ainsi, Marcel Simon, l'historien strasbourgeois des origines chrétiennes, pour lequel le christianisme représente, je cite, « le type même de la religion de salut », note que la sotériologie paléo-chrétienne reste étroitement tributaire du judaïsme. Or, c'est à l'encontre même de cette évidence que le concept de religion de salut est d'habitude utilisé. Dans un volume intitulé « Religion de salut », Léon Herrmann note que le salut ne se conçoit dans la religion nationale qu'est le judaïsme que comme la survie collective du peuple élu. Pour lui, parler de salut de la communauté, du salut collectif, c'est faire un abus de langage. C'est Paul, ajoute Herrmann, qui transforme le judaïsme en un mystère de salut sous l'influence des mystères du monde gréco-romain en insistant sur la valeur sotériologique du rite initiatique baptismal. Le christianisme représente ainsi la transformation du judaïsme en religion de salut. Une telle vue des choses a une longue filiation. Alfred Loisy déjà voyait en Jésus un Dieu sauveur qui, tel un Osiris, un Attis, un Mitra, appartenait à l'origine au monde céleste et avait ressuscité après sa mort violente. La représentation de Jésus en un tel Dieu sauveur, ne mourant que pour renaître, était commune chez les contemporains allemands de l'Oisie, surtout autour du cercle de la Religionsgeschichtliche Schule de Göttingen. Le Dieu sauveur qui, par sa mort, sauve les hommes avant de renaître, est à l'origine de la conception, surtout gnostique et manichéenne, du Salvator Salvandus, tel qu'il est présenté par Augustin dans sa politique anti-manichéenne, le sauveur ayant besoin du salut. Dans plusieurs mouvements religieux du Proche-Orient et du monde méditerranéen de l'Antiquité tardive, se retrouve l'idée d'un sauveur envoyé à l'humanité par le Dieu suprême, mais devenu prisonnier des forces du mal. Ce sauveur doit maintenant se sauver lui-même afin de pouvoir accomplir sa mission. L'hymne de la perle syriaque du IIIe siècle est sans doute le texte capital concernant ce mythe. Le problème du mal se retrouve au cœur même de tous les systèmes dualistes, des gnoses au manichéisme. Dans ces systèmes, l'élément central est l'opposition au monde matériel créé par un démiurge vil ou méchant et la nécessité d'échapper à ses griffes en réussissant à s'enfuir du monde. Cette fuite de l'âme, c'est-à-dire de l'essence même de l'homme, hors du monde matériel, est une sorte d'extase radicale rendue possible par le sacrifice volontaire et salvifique du Sauveur. Quand Bousset traite de religion de salut, le concept a déjà été mis en vogue par Eduard von Hartmann et Hermann Siebeck, deux philosophes s'inscrivant dans la lignée de Hegel et de Schopenhauer, mais qui font ici écho aux idées de Schleiermacher. Tous deux expriment un grand intérêt pour l'histoire des religions. Il semble bien que ce soit à Eduard von Hartmann qu'on doive l'introduction du concept de Erlösungsreligion dans le vocabulaire technique de l'histoire des religions. C'est dans un livre publié en 1888 que von Hartmann développe ses vues. Pour lui, le judaïsme est l'exemple même d'une religion fondée sur la loi, Gesetzesreligion. Résumant l'évolution du judaïsme en tant que religion nationale, von Hartmann note que le pharisaïsme ne sait rien d'un messie qui doit mourir, son œuvre demeurant encore inachevée avant de ressusciter. Le messie juif reste pour lui un héros guerrier qui rétablira le royaume de David. Dans un long chapitre où il traite de la religion de salut réaliste incarnée dans le paléo-christianisme, qu'il appelle la religion du Christ hétérosotérique, pour laquelle le salut des hommes nécessite l'intervention de la figure du Sauveur, du Christ comme Messie. Une telle conception du salut reflète les racines juives du paléo-christianisme. La religion du Fils se transforme finalement en celle de l'Esprit quand le trinitarisme devient unitariste. La conclusion du livre souligne que la religion de l'Esprit représente l'accord final de l'évolution religieuse de l'humanité. On peut aisément percevoir ici une tentative pour intégrer à la conception hegelienne de la religion celle de Kant. Dans son manuel Lehrbuch der Religionsphilosophie, publié en 1893, Hermann Siebeck, lui aussi essentiellement philosophe plutôt qu'historien des religions, prolonge l'approche de von Hartmann, mêlant lui aussi l'approche kantienne à celle de la religion à celle de Hegel. Dans son analyse historique des religions, Siebeck consacre 60 pages à la religion de salut qui, succédant à la religion de moralité, elle-même venant après la religion de nature, représente le troisième et dernier stade de l'évolution religieuse de l'humanité. Siebeck insiste sur le fait que le salut signifie une sortie du monde. C'est du monde qu'on peut et qu'on doit se sauver. Dans son analyse historique, Siebeck conçoit l'ancienne religion d'Israël comme étant de caractère éthique, mais conservant les traces d'un passé animiste. Pour lui, les prophètes d'Israël avaient déjà annoncé le salut futur, notant toutefois que c'est le passage du judaïsme au christianisme qui représente le pinacle de cette évolution, la sortie de l'ère de la religion éthique et l'entrée dans celle de la religion de salut. Zibek consacre plusieurs pages à la transformation du brahmanisme et à l'émergence du bouddhisme, phénomène reflétant pour lui un mouvement parallèle à la naissance du christianisme. À l'encontre du judaïsme, la conception évangélique du salut se distingue par sa nature directe, ainsi que par l'insistance typique du christianisme sur le principe de la victoire sur le monde. Dans la présentation de Zibek du passage du judaïsme au christianisme, on peut discerner l'écho du grand bibliste Julius Wellhausen. Cet Augustin, dans sa polémique contre les Pélagiens, qui consacre la victoire du salut par la grâce divine au fait de la religion du salut. Quant à l'islam, il représente pour Zibek, comme pour toute la tradition hegelienne, une réaction à l'émergence de la religion de salut que représente le christianisme et une régression spirituelle, un retour du troisième et dernier stade de l'évolution religieuse au stade précédent, celui de la conception légaliste de la religion. En quelque sorte donc, un retour au judaïsme, cette fois un judaïsme adapté aux Arabes. Ernst Troeltsch, avec son ami Max Weber, l'un des fondateurs de la sociologie religieuse, travaille essentiellement sur les églises et les sectes dans l'histoire du christianisme. Bien que ne faisant pas partie au sens strict de l'école de Göttingen, il reste cependant très proche du mouvement et de ses membres les plus importants. Troeltsch insiste sur l'importance religieuse du salut. Il s'inscrit lui aussi dans la perspective hegelienne sur l'histoire des religions, pour laquelle le christianisme représente la forme la plus élevée, la plus pure ou absolue de religion. Pour lui, le christianisme n'est pas seulement le sommet de l'histoire des religions, il représente aussi le point de convergence de toutes les formes connues de religion. À cette religion spirituelle s'opposent les religions légalistes, dont les plus remarquables représentants sont le judaïsme pharisaïque, sa directe continuation historique, le judaïsme rabbinique, et enfin l'islam, une religion dont l'universalisme n'est que formel et cache mal sa dimension nationale arabe. L'islam représente une régression vis-à-vis non seulement du christianisme, mais aussi du judaïsme. Ainsi, le christianisme est de toutes les religions la plus robuste et représente la révélation la plus inclusive de la religion personnelle. Si l'on cherche des parallèles aux conceptions chrétiennes, c'est donc plutôt vers le bouddhisme que vers le judaïsme ou l'islam qu'il faudra s'orienter. Le judaïsme et l'islam sont ainsi les seules religions exclues du milieu syncrétiste hellénistique dans lequel le christianisme se forme et se développe jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive. L'idée même de syncrétisme, remarque judicieusement Hans Kippenberg, semble être utilisée ici afin d'éloigner le christianisme du judaïsme. Dans ses nombreuses études sur l'histoire des religions publiées dans les deux dernières décennies de sa vie, Max Weber, qui meurt en 1921, réussit à identifier les différents types de salut proposés par les grandes religions d'Orient et d'Occident. Une clé essentielle pour comprendre la logique de son argumentation est la dialectique entre certains types idéaux, idéaltypen, tels que les comportements ascétiques et mystiques, ainsi que les attitudes d'acceptation et de rejet du monde. Pour Weber, les conceptions du salut insistent soit sur la conduite rituelle, soit sur la foi en un sauveur, soit sur un savoir salvifique, la gnose, qui reste ésotérique, n'étant divulguée qu'aux élus. Ainsi, dans le paléo-christianisme, une controverse capitale a lieu sur les modalités du salut entre ceux qui mettent l'accent sur la pistis et ceux qui, à la fois, trouvent supérieur le savoir, la gnosis. Le sociologue des religions Joachim Wach, qui trouva à Chicago un refuge dans sa fuite du Troisième Reich, s'inscrit surtout dans la lignée de Troeltsch, dans son approche émique ou intérieure de l'histoire des religions, c'est-à-dire dans une approche selon les catégories internes à chaque religion. Pour lui, c'est l'essence même de la nature humaine que reflète le besoin religieux de salut. Plus directement dans la tradition weberienne, la théorie de la religion de Martin Riesebrod évite toute discussion de l'idée de religion de salut. Riesebrod, qui conçoit la religion comme un phénomène universel, est en fait plus directement intéressé par la configuration de deux grands champs religieux, pour utiliser le vocabulaire de Pierre Tardieu, de Pierre Bourdieu, pardon, les religions abrahamiques d'un côté, face aux religions asiatiques, surtout l'hindouisme et le bouddhisme de l'autre. En fait, Riesebrod reprend à son compte les deux grandes familles de religions du salut, celles pour lesquelles le salut des hommes passe par un sauveur et celles par lesquelles il passe par la transformation autonome de l'individu. Ces remarques succinctes sur la nature du concept de religion de salut n'ont pas encore expliqué son origine. Pourquoi et comment l'idée de salut se concrétise-t-elle vers la fin du XIXe siècle chez certains philosophes et théologiens allemands? Si j'ai fait référence au début de mon propos à la conception du salut dans la Bible hébraïque, c'est pour mieux signaler l'étrangeté de l'émergence du concept de religion du salut pour en quelque sorte permettre au paléochristianisme de radier l'enracinement de la nouvelle religion dans le judaïsme contemporain. À travers tout le XIXe siècle, les savants européens apprennent à penser les religions de l'humanité en se libérant plus ou moins des traditions théologiques et à les étudier de façon comparative. Ainsi s'établissent les catégories et les taxonomies qui permettent la naissance de l'histoire des religions en tant que discipline scientifique et accompagne ses premiers développements jusqu'à son apogée à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais l'histoire de toute discipline, certainement dans les sciences humaines, ne peut guère se comprendre sans faire appel à un cadre historique plus large. L'innovation scientifique fait partie de l'histoire intellectuelle d'une société. L'étude comparée des religions, c'est l'évidence même, ne pouvait naître que dans une Europe non pas sécularisée, l'idée d'une société totalement sécularisée reste une vue de l'esprit, mais en voie de sécularisation. Les diverses églises, tant qu'elles tenaient le haut du pavé, ne pouvaient aucunement permettre une réflexion faisant fi de leurs instincts conservateurs autant que de leurs dogmes. Mais on oublie trop souvent que les Lumières, en éclairant des pans entiers de l'aventure humaine, créèrent aussi quelques zones d'ombre, parfois profondes. Dans un livre publié au printemps dernier et que Rémi Brague a mentionné, The Idea of Semitic Monotheism, The Rise and Fall of a Scholarly Myth, j'ai tenté de montrer comment s'était effritée, dès les mouvements des Lumières et du Romantisme, la conception traditionnelle depuis l'Antiquité tardive et à travers tout le Moyen-Âge, d'une relation de famille, pour parler comme Wittgenstein, entre les trois grandes religions monothéistes. De façon paradoxale, au moins à première vue, le processus de sécularisation de la pensée européenne avait permis d'insister sur l'identité culturelle chrétienne de l'Europe, permettant en quelque sorte d'en expulser mentalement à la fois juifs et musulmans. Un tel mouvement avait été bien sûr accéléré par la découverte, vers la fin du XVIIIe siècle, des liens profonds entre les sanskrits et les langues européennes, d'une famille linguistique attestée sans conteste. On passa trop vite à une famille supposée de peuple, les Indo-Européens. Les Allemands préféraient parler d'Indo-Germanen ou Aryens, et à celle pas moins hypothétiques de leur mythologie et de leur religion. À cette nouvelle famille de religions, on a pris tout de suite à opposer les religions sémitiques, c'est-à-dire essentiellement, pour les religions vivantes, le judaïsme et l'islam. Ernest Renan se fit très vite le chantre de la nouvelle taxonomie linguistique et religieuse, se chargeant d'en étudier le pendant sémitique, alors que son ami Max Müller, le sanskritiste d'Oxford, travaillait surtout sur les langues et les mythologies des peuples aryens. Pour Renan, les sémites sont en tout inférieurs aux aryens. Renan parle de race, Mais il faut souligner qu'il sait aussi qu'il s'agit là d'un usage métaphorique du terme. Renan n'est pas raciste au sens fort du mot, ni non plus antisémite, même s'il partage le vocabulaire et les instincts de son temps. On peut cependant le considérer comme islamophobe, en utilisant le terme de façon anachronique. Le mémoire que Renan présenta dans cette salle même, dans la salle dans laquelle vous êtes, en 1859, nouvelle considération sur le caractère général des peuples sémitiques et en particulier sur leur tendance au monothéisme, occupa les séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pendant plusieurs mois. J'ai tenté dans mon livre de suivre les péripéties de ce que j'ai appelé la querelle du monothéisme chez de nombreux savants européens pendant toute une génération. Les efforts faits des deux côtés du Rhin, en France comme en Allemagne, pour tenter d'éloigner le christianisme autant que possible de son berceau juif, sont proprement effarants. Même si l'on a du mal à prendre au sérieux aujourd'hui une telle conception arienne du christianisme, il est impératif de souligner la force avec laquelle elle fut présentée et développée, jusqu'à la fameuse polémique entre la Bible et Babylone, le Babel-Bibel-Streit, des toutes premières années du XXe siècle, qui signale les prodromes intellectuels de l'antisémitisme nazi. Depuis Voltaire au moins, l'antisémitisme avait développé des tendances raciales, presque inconnues plutôt. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, un tel antisémitisme avait atteint une virulence et une propagation dans la société qui n'épargnaient pas les milieux savants. C'est, semble-t-il, le cadre au moins partiel dans lequel il nous faut insérer la naissance de l'idée de religion de salut. Elle proclame que c'est de la religion et de la tradition philosophique grecque que le christianisme est proche, non pas du judaïsme auquel il s'oppose en tout. De telles élucubrations étaient particulièrement attirantes pour les théologiens dits libéraux de Göttingen et d'ailleurs, toujours fascinés par la rupture incomplète entre judaïsme et christianisme. Comme l'écrira plus tard le théologien berlinois Adolf von Harnack, Marcion avait trop tôt rejeté l'Ancien Testament et Luther, qui aurait pu le faire, avait manqué le coche. Le temps était venu de ne pas répéter son erreur. On peut s'interroger brièvement pour conclure sur la valeur heuristique de l'idée de religion de salut. Toute science exige la création de systèmes taxonomiques qui seuls permettent d'organiser le savoir et par la comparaison d'imaginer des structures regroupant les phénomènes, les subsumant à des catégories plus larges. Que l'histoire des religions n'échappe pas à cette règle, c'est l'évidence même. Il est ainsi totalement justifié de classifier les religions selon différents critères, religions mortes ou vivantes, religions ethniques, polyethniques ou universelles, religions de l'oralité ou du livre, religions polythéistes, dualistes ou monothéistes, religions archaïques ou prophétiques, et ainsi de suite. Certaines religions insistent sur l'idée du salut, une idée ambiguë autant que polyvalente, comme nous l'avons vu. La recherche historique et anthropologique, cependant, montre à quel point la réalité est complexe et comment nos catégories classificatoires ne représentent, dans le meilleur des cas, que ce que Weber appelait des types idéaux. Cela dit, j'espère avoir montré comment l'idée de religion telle qu'elle naît et se développe dans certaines universités allemandes de la fin du XIXe siècle, reste tributaire à la fois des identités religieuses et des préjugés ethniques ou raciaux des élites intellectuelles européennes. En excluant le judaïsme et l'islam des religions de salut, on effectuait une trahison brutale, grotesque même, de l'évidence historique, et on proposait une vision manifestement fausse du christianisme des origines. Il s'agissait donc plus que d'une catégorie inutile du point de vue heuristique, il s'agissait d'une catégorie dangereuse. Le concept de religion de salut, en créant un abîme entre judaïsme et islam d'une part et christianisme de l'autre, ne pouvait que mettre de l'huile sur le feu impur de la haine raciale et religieuse qui finirait, dans la première moitié du XXe siècle, par embraser l'Europe. Il n'est pas vraiment sûr que le continent se soit totalement remis de cette haine dont les musulmans font aujourd'hui, peut-être plus que les juifs, les frais. Je ne crois pas, comme l'évangéliste, chers collègues, que le salut vienne des juifs. Mais je suis convaincu, avec les prophètes d'Israël et les rabbins du Talmud, que le salut, s'il signifie quelque chose, est avant tout celui de la communauté, de l'humanité. Le salut, c'est la responsabilité même des humains, pas des dieux. Et c'est par le savoir et par les actes, plutôt que par la foi, qu'il nous faut l'espérer et l'appeler. En attendant, c'est hic et nunc, dans un monde que nous n'avons pas encore réussi à sauver et qu'il nous faut sauver, que nous devons apprendre à vivre. Je vous remercie.
Je tiens à être le premier à te remercier. Il y a des questions, j'en aurais aussi à poser, mais la première sera celle de Jacques Delarosière. Votre micro, Jacques.
Il s'est éteint. Oui, merci beaucoup. Cette communication est absolument remarquable parce qu'elle est très riche et qu'elle englobe beaucoup de facettes dans la notion de religion de salut. Et je suis très reconnaissant à Rémi Braque de vous avoir invité. J'ai une question à vous poser. Dans la tradition chrétienne, et en particulier dans la tradition catholique, le concept de salut est lié au concept du péché. Le péché, c'est une notion essentielle du catholicisme. Et la religion catholique vous amène à sortir du péché par des actes de repentance et d'amélioration. Et en fin de compte, et c'est là où la notion de salut me préoccupe, en fin de compte, c'est la géhenne pour ceux qui ne se sont pas rachetés, et c'est le paradis plus ou moins proche, d'ailleurs, pour ceux qui se sont amendés. Et donc, dans cette conception catholique, que j'essaye de résumer trop simplement, quel est le salut ? Si vous avez péché et que vous ne vous êtes pas amendé, vous êtes en enfer. Je ne vois pas la possibilité à ce stade d'un salut. C'est si on s'est amendé qu'on peut prétendre à une vie éternelle. Et alors la question que je pose à notre correspondant aujourd'hui est la suivante. Cette notion du péché qui établit, si vous voulez, d'une certaine manière, la nature du salut dans la religion catholique, vous la retrouverez ou pas dans, par exemple, dans la religion judaïque. Je voudrais savoir si ce que je viens de dire éveille en vous une curiosité particulière. Merci.
Je réponds tout de suite, Rémi.
Oui, oui, oui.
Alors certainement, l'idée de péché propose donc de se repentir de son péché ou de ses péchés afin de retrouver la communion avec l'Église catholique et avec son fondateur Jésus-Christ, qui permet donc le salut, le paradis, si vous voulez, après la mort. La question, alors le péché, c'est un péché religieux, mais ça peut être aussi un péché éthique. Et les penseurs chrétiens à travers les siècles, déjà les pères de l'Église, puis au Moyen Âge et plus tard, y compris chez les théologiens protestants, évidemment, se sont posés souvent la question, qu'en est-il du salut des non-chrétiens? Platon, supposons que Platon, qui n'a pas connu le Christ, Platon ou Aristote, qui ne pouvait pas connaître le Christ, n'ait pas péché, aient été des personnages totalement éthiques, ont-ils droit au salut? Pas complètement, nous répond toute la tradition, ils ont droit à un demi-salut, si vous voulez. Donc, c'est ainsi que présentent les choses, en tout cas Dante, dans sa comédie divine. Alors, l'idée de péché existe bien sûr dans d'autres religions, certainement dans la religion d'Israël, ça existe dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, qui fait partie des écrits saints de la religion catholique, mais qui avant fait partie des écrits saints de la tradition d'Israël, n'est-ce pas ? Et certainement dans l'islam et dans d'autres religions, les textes bouddhistes et hindous nous parlent aussi de péché, avec des paramètres différents. Mais l'idée de péché et de repentir du péché est une idée qui n'est probablement pas universelle dans le sens dans lequel je ne peux pas confirmer que ça existe dans toutes les religions, des religions des peuples sans écriture, par exemple, où nous avons beaucoup moins de facilité pour identifier les composantes de la religion personnelle, mais elle existe certainement à travers les religions du monde.
Merci. Jean Béchler, vous avez une question, je crois ?
Oui, j'espère, parce que, mon cher collègue, vous êtes à ce point savant et intelligent que vous rendez tout le monde modeste, vous leur imposez la modestie dans la conviction que nous ne sommes que des ignorants. Et donc c'est en tant qu'ignorant que je vais essayer de vous poser une question très modeste. Au cœur, je m'en tiendrai aux religions dites de salut, enfin les trois, judaïsme, christianisme et islam. Le noyau conceptuel de ces religions, ou le noyau philosophique ou métaphysique, est un Dieu personnel, créateur, ex nihilo. Si vous m'accordez cette proposition, je peux continuer. Si vous la contestez, je m'arrête.
Continuez. Bon.
Alors, ma question est la suivante. Dans ce concept, est-il analytiquement inclus l'idée ou le concept d'un salut individuel auprès de la divinité? Ce qui suppose, évidemment, quelque chose comme l'immortalité de l'âme. Je répète ma question. Est-ce que dans le noyau conceptuel d'une religion monothéiste est incluse l'idée ou le concept d'immortalité de l'âme et donc la possibilité d'un salut par une sorte de divinisation, si vous voulez, la théosie, j'aime pas beaucoup ce mot-là, théosie, ce qui me paraît enfin, suspect. Est-ce que c'est inclus? Alors, si on regarde, du côté catholique en tout cas, les grands mystiques, les grandes saintes, Sainte Thérèse de Lisieux, de l'enfant Jésus, ne parle pas du tout de son salut. Elle parle exclusivement de l'amour que l'on doit avoir pour le Créateur qui nous a créés avec amour. Alors là, je crois qu'effectivement est inscrit dans ce concept l'idée d'amour de Dieu, d'amour des autres, d'amour de soi-même, d'amour de la planète, des animaux, de tout ce que l'on voudra, de la création pour simplifier, mais pas l'idée d'un salut dans l'au-delà. Alors, Ça me fait penser, si vous voulez, à saint Thomas d'Aquin et le problème de la perpétuité du monde, ou plus exactement de la création. Il dit, la révélation m'oblige à croire que le monde a été créé à un moment donné par Dieu. Mais je n'arrive pas à démontrer que la position inverse de la perpétuité du monde est fausse. Et il a passé sa vie, une partie de sa vie, à essayer. Et je crois que c'est la même chose. On ne peut pas démontrer philosophiquement, si vous voulez, qu'une religion de salut se déduit spontanément du concept. Elle a besoin d'une révélation et par conséquent d'une conversion par la foi à cette révélation et ne peut pas résulter d'une démarche purement rationnelle. Alors je crois qu'on pourrait en dire un peu la même chose dans un contexte conceptuel radicalement différent du côté du brahmanisme et du bouddhisme, mais je m'en tiens là, j'ai assez révélé mon ignorance, enfin vous m'en excuserez.
Je vais essayer de vous répondre très rapidement. On a écrit des tomes évidemment sur ces questions. J'ai accepté votre première proposition sur le fait que le judaïsme, le christianisme et l'islam partent tous du principe d'un Dieu personnel. Tout de suite après, quand vous avez parlé d'immortalité de l'âme, j'ai été perdu. C'est-à-dire, non, ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam ne partent du principe de l'immortalité de l'âme. Ce sont les philosophes grecs qui partent de l'immortalité de l'âme. Pour le judaïsme, il y a, à la fin des temps, la résurrection des morts. Ézéchiel, par exemple. Le judaïsme, évidemment, c'est la religion d'Israël passe par des stades différents, mais à l'époque des prophètes déjà, on imagine une résurrection des morts. La même chose est vraie pour le christianisme des premiers siècles. Le concept d'immortalité n'existe pas. Il n'existe qu'à partir du moment où les théologiens chrétiens acceptent de façon tout à fait consciente en général le platonisme, la philosophie platonicienne de façon vague dans l'Empire romain à l'ouest comme à l'est, c'est-à-dire 3e et surtout 4e siècle, et à partir de ce moment, on découvre chez les penseurs chrétiens un glissement de l'idée de résurrection des morts à celle d'immortalité de l'âme. Après, l'immortalité effectivement prend le dessus, je crois, sans que jamais l'idée de résurrection des morts soit niée. Comment pourrait-on la nier alors que Jésus-Christ lui-même est ressuscité des morts. Et donc, vous avez parlé d'amour, l'amour de Dieu pour l'homme et donc l'amour que l'homme doit avoir pour Dieu. Vous avez cité ou vous avez fait allusion à certains grands textes mystiques des débuts de l'époque moderne, certainement, mais je tiens à remarquer, il faudrait de longs développements pour le démontrer, mais en tout cas, je peux l'annoncer, c'est que dans la mystique de différentes religions, on retrouve ça chez les juifs, on retrouve ça chez les musulmans, le mystique qui a une relation d'une intensité particulièrement forte avec le divin ou avec Dieu, réussit à neutraliser, si vous me permettez l'expression, elle n'est pas de moi, elle est de l'historien de la mystique juive Gershom Scholem, permet de neutraliser d'autres éléments dans la religion qui sont essentiels à cette religion, mais qui sont neutralisés, qui ne sont pas démentis, mais qui n'importent plus pour le mystique. Par exemple, pour Scholem avait montré comment les mouvements chassidiques du XVIIIe siècle avaient neutralisé l'idée de messianisme qui est, par ailleurs, une idée centrale dans l'histoire du judaïsme. Voilà ce que je pouvais proposer pour répondre très brièvement à votre belle question.
Merci beaucoup. Notre secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitt, souhaite également prendre la parole.
Merci, cher Rémi, et merci de votre exposé très riche. J'ai deux petites questions. Vous avez dit à un moment que l'islam vous apparaissait comme une religion faussement universaliste et que c'était une sorte d'adaptation du judaïsme ou du judéo-christianisme à la culture arabe. Et en quelque sorte, si j'ai bien compris vos propos, une sorte de simplification. C'est un peu ce que essayait de dire mon maître Xavier de Planolle dans tous ses travaux sur la géographie de l'islam. Mais alors comment peut-on expliquer dans ce cas-là que l'islam se soit répandu dans des mondes culturellement si différents de la culture arabe comme l'animisme africain, le monde indien, le monde malais, jusqu'à loin en Indonésie, c'est-à-dire aux Philippines, fort loin de la culture arabe. Donc ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, enfin, c'est plus une remarque qu'une question. Vous avez insisté plusieurs fois à propos du péché dans les religions monothéistes sur la question de la repentance, du remords, du regret de ces péchés. Mais vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot sacrement, qui est quand même l'une des différences majeures entre le judaïsme et les versions du christianisme. Alors même si les protestants n'ont gardé qu'un seul sacrement, le baptême, les catholiques et les orthodoxes en ont gardé sept, je crois. Et c'est quand même une différence majeure. Et à la limite, la repentance peut être légère, le sacrement et le pardon de Dieu par le sacrement est mille fois plus important que la repentance qui est nécessaire, le regret de ses péchés, mais tellement plus important la grâce de Dieu par le sacrement. Donc cette question du sacrement me paraît une des grandes différences entre le christianisme, les christianismes, si on veut utiliser le pluriel, et le judaïsme. Je voudrais avoir votre sentiment à ce sujet.
Je vous remercie pour ces deux questions ou remarques qui me permettent de clarifier ma pensée et ce que j'ai voulu faire. La première, sur l'islam, je n'ai absolument pas dit et je n'ai jamais pensé que l'islam soit une religion faussement universelle. Ce que j'ai dit, quand mon texte pourra être lu, ça sera plus clair à l'écrit qu'à l'oral, ce que j'ai dit, c'est que les théologiens et les historiens des religions protestants allemands de la fin du XIXe siècle, plus Renan, si vous voulez, pensaient que l'islam était faussement universel. C'est, l'idée pour ces gens-là était que le christianisme étant, après Hegel, la religion suprême, la fin de l'histoire religieuse, de l'évolution religieuse de l'humanité, qu'est-ce qui se passe quand une religion monothéiste arrive au monde après six siècles de christianisme? C'était un problème, et la seule façon de résoudre ce problème pour toute l'histoire de la pensée chrétienne, c'est de dire premièrement que Mahomet était un faux prophète, et deuxièmement que ce n'est pas vraiment une religion universelle, on ne peut pas nier ce que jamais les penseurs théologiens chrétiens n'ont pu nier, c'est que l'islam soit une religion vraiment monothéiste. C'était difficile de nier. Mais ce qu'on pouvait dire, c'était que c'était une religion qui n'était pas vraiment universelle, qui était en fait un judaïsme présenté aux Arabes, si vous voulez. Alors, vous avez remarqué fort justement que quatre musulmans sur cinq dans le monde ne sont pas arabes. N'est-ce pas ? Donc, je pense absolument que l'islam est une religion universelle au même titre que le christianisme, sans aucun doute. Votre deuxième remarque sur l'idée de sacrement que je n'ai pas prononcée, parce que effectivement, je ne vous ai pas parlé du salut. J'ai fait un exercice à la demande du président qui m'a demandé de réfléchir sur le concept de religion de salut. C'était un concept qui l'intriguait, qui m'intriguait en fait. J'avais jamais réfléchi dessus de façon systématique et je vous ai proposé le résultat de 6 mois de réflexion. J'ai essayé de lire plus ou moins ce qui s'était fait là-dessus et donc j'ai réfléchi sur la naissance et la valeur heuristique d'une catégorie pour les historiens des religions. Qu'est-ce que c'est que l'idée de religion de salut ? Le sacrement n'a rien à faire avec ce concept.
Merci.
Je serai prêt, évidemment, si vous nous réinvitez l'année prochaine et qu'on puisse voyager, de venir parler des sacrements de façon comparative ou pas, mais c'est une autre paire de manches.
J'en profite pour regretter infiniment que nous soyons réduits à ce moyen, à ce pis-aller pour communiquer. Espérons que, par la grâce du virus ou de son départ, nous pourrons faire mieux. Mais pour l'instant, je cède la parole à Jean-Claude Trichet, qui souhaite poser une question. J'en poserai moi-même une.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ce remarquable exposé qui a été non seulement très stimulant, impressionnant, dont on voyait qu'il était nourri d'une réflexion très profonde et très émouvant aussi. J'ai finalement une seule question. Je comprends très bien votre analyse de la fausseté dans une très large mesure des thèses des protestants allemands qui mettaient le christianisme très au-dessus du judaïsme et de l'islam pour de mauvaises raisons. Là où je souhaiterais avoir votre commentaire, c'est sur la thèse selon laquelle le christianisme est bien quand même une sorte de syncrétisme entre le judaïsme et l'ancienne religion polythéiste romaine. C'est un fait que lorsque l'on est à Saint-Pierre de Rome, on se sent quand même plus proche, d'une certaine manière, d'un temple polythéiste de l'ancienne religion romaine ou de l'ancienne religion grecque que d'une synagogue ou d'une mosquée. Le Dieu invisible est là, dans la synagogue et dans la mosquée, il est très visible et il a de multiples représentations, y compris la Trinité. Et je voulais vous demander également votre commentaire sur le point de savoir si l'idée même d'un Dieu trinitaire est réellement quelque chose qui est directement issu du judaïsme, ce qui me paraît invraisemblable, et si ce n'est pas plutôt d'une certaine manière une déclinaison de la triade gréco-romaine. Il y avait bien 3 dieux principaux chez les Romains, sauf erreur de ma part, Jupiter, Junon et Minerve. Accessoirement, d'ailleurs, un dieu masculin et 2 dieux féminins. Est-ce que je prononce une thèse abominable en vous disant que je trouve certaines traces de l'ancienne religion polythéiste gréco-romaine plus dans le catholicisme, à vrai dire, que dans le protestantisme? Comment commenteriez-vous cela?
Oui. Vous n'êtes certainement pas seul à faire ces remarques. C'est vrai, mais c'est vrai pour toutes les religions. C'est vrai pour le judaïsme, toute religion. Les religions sont pour un historien, je suis donc pas un théologien, les religions sont des entités sociales. qui donc naissent, évoluent, se transforment constamment et meurent, comme toutes les autres catégories sociales. Toutes les religions se fondent en utilisant et en transformant des éléments de religions antérieures et voisines. C'est vrai de la religion d'Israël. C'est vrai de la religion d'Israël. Quand les textes bibliques s'opposent aux idoles, c'est pas parce que ces idoles n'existent pas, c'est parce que ces idoles sont fausses. Et on voit dans toute la tradition hébraïque, biblique, puis juive, de très nombreux emprunts aux traditions cananéennes, même à certaines traditions égyptiennes et certainement à des traditions babyloniennes, et ainsi de suite. Donc, quand l'islam apparaît sur la scène au début du 7e siècle, dans la péninsule arabique, on a la majorité des gens semblent avoir été des païens, mais il y a de nombreux chrétiens, il y a des juifs, il y a des zoroastriens, et on voit dans les débuts de l'islam et même dans le texte du Coran des éléments qui reflètent ces traditions telles qu'elles existent à l'époque. Donc le christianisme, quand il naît et quand il se développe dans l'Empire romain, tout simplement n'échappe pas à la règle. C'est ce que je peux dire. Vous avez fait mention du Dieu trinitaire. Effectivement, le Dieu trinitaire, on a trouvé depuis certainement le 18e siècle, Charles Dupuis, l'historien des religions sous la Révolution française, qui avait écrit un traité sur tous les cultes, retrouvait dans le culte du solaire et dans le polythéisme ancien, retrouvait les éléments dont était formé le christianisme. Ça continue, cette tradition continue, se raffine quand même à travers tout le 19e siècle, beaucoup moins au 20e siècle, après 1920, après la Première Guerre mondiale, ces choses perdent la valeur qu'elles avaient avant, si vous voulez. Mais j'ai moi-même, quand j'étais très jeune, j'ai écrit un article que j'ai même écrit en français, que j'ai publié dans la Revue publique des Dominicains de Jérusalem, sur une origine possible juive du trinitarisme chrétien, c'est-à-dire Dieu avec l'Esprit Saint, qui est un concept juif, et un archange suprême, qui est aussi un concept juif. Et donc on a quelques textes où on pourrait imaginer que cette idée de trinitarisme aurait pu trouver aussi sa racine dans le judaïsme, qui était la religion des premiers chrétiens. Pourquoi pas ?
Merci. Marianne Bastide-Bruguère a une question.
Pardon. Tout à fait différente. Et dans votre système philosophique des religions, comment classez-vous le bouddhisme ? Où il y a l'idée du salut, il y a également l'idée de la faute. Et qu'est-ce que vous en faites du bouddhisme ?
Il y a deux questions. Qu'est-ce qu'en font les historiens des religions qui inventent et forment et transforment le concept de religion du salut ? Ça, je l'ai dit plus ou moins dans ma présentation. Alors, je n'ai pas de doute que le bouddhisme, comme le christianisme et comme d'autres, l'islam, naît. On sait quand le bouddhisme naît, on sait comment il se développe. Je ne lis pas les langues du sanskrit au chinois et au japonais dans lesquelles le bouddhisme s'est développé. Donc, je ne veux pas vraiment, je ne l'ai pas recherché, je ne veux pas vraiment en parler, mais c'est certainement une religion universelle dans ce sens où non seulement il y a des monastères bouddhistes en Californie et même en France, j'imagine, mais c'est une religion universelle, c'est une religion qui a une spécificité toute particulière, qui en fait à la fois l'attrait et qui en a fait le mépris, c'est le fait que c'est une religion sans Dieu. Le concept de Dieu est un concept qui n'est pas vraiment... On peut trouver des parallèles chez les bodhisattvas, etc. Mais c'est pas le concept de Dieu, du Dieu un tel que nous le connaissons dans les religions monothéistes, n'existe pas. Je voudrais juste ajouter si vous me permettez, une anecdote. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Kyoto avec mon épouse et notre hôte, qui était chrétien, nous a fait visiter les grands sites religieux de Kyoto. Et à un certain moment, nous sommes entrés dans un temple où il y avait 1000 figurines du Bouddha en or. Et alors, notre hôte, étant un bon monothéiste, a refusé d'entrer dans ce temple. Voilà.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser moi-même. D'abord, je suis heureux que les hasards de la chronologie, même si cette chronologie a été bouleversée par le virus que vous connaissez, nous amènent à commencer cette année de réflexion que j'ai intitulée « Sauver à l'infinitif avec un point d'interrogation » par les notions religieuses du salut, puisque la conférence de Guy Strumsa sera suivie de celle de Jean-Pierre Battu, qui nous parlera de la conception chrétienne du salut. Il importait d'une certaine manière de dégager le terrain en traitant tout de suite ce à quoi on pense lorsque l'on parle de sauver, à savoir la notion religieuse du salut, pour pouvoir élargir ensuite à d'autres problèmes. Mais alors, en ce qui concerne cet exposé, eh bien, j'ai fait remarquer, dans la petite présentation par laquelle j'ai commencé, enfin j'ai introduit ton exposé, que tu avais deux casquettes, celle d'un historien des religions et celle d'un historien de l'histoire des religions. Donc une casquette, si je puis dire, réflexive. Alors tu as porté la seconde des casquettes pour nous parler de la façon dont certains historiens, et non des moindres influents, ont essayé de penser cette catégorie, ont déjà inventé cette catégorie de religion du salut. Et derrière cette réflexion sur l'histoire des religions, tu nous as présenté une typologie plus ou moins explicite de l'idée de salut. Lorsque tu as parlé, par exemple, d'une transformation intégrale, c'est peut-être cela, d'une transformation intégrale du sujet religieux, qui distingue la notion de salut de celle de simple sauvetage, celle dont j'ai parlé dans ma petite introduction de cette année, n'est-ce pas ? Si l'on veut se faire l'idée d'une religion de non-salut, il aurait été intéressant peut-être de se demander s'il y a des religions de non-salut, enfin qui ne parlent pas de salut. Je pense à certains aspects de la pensée égyptienne, enfin de l'Égypte pharaonique, bien entendu. Un aspect qu'a bien mis en lumière notre ami commun Jan Assmann, l'égyptologue et théoricien de la culture allemand, lorsqu'il a fait remarquer que, à la différence des cosmologies grecques, il ne s'agissait pas d'un cosmos dont l'idéal serait l'immobilité, mais au contraire, d'un cosmos fluent, d'un cosmos comment dire, en mouvement, le paradigme central étant bien entendu le mouvement du soleil sur sa barque qu'il entraîne aussi dans le monde souterrain d'où il va ressurgir, la religion consistant pour une large part, pas dans tous les aspects de la religion égyptienne, mais pour une large part, à permettre que ce mouvement continue. Donc, ce que l'on peut appeler le salut consiste à faire en sorte que les choses continuent, que rien ne change d'une certaine manière. Hein, c'est une religion que l'on pourrait presque appeler gâteaupardesque, si l'on jouait sur l'italien. Bon. C'est-à-dire qu'il faut que tout change pour que rien ne change, ou l'inverse. Alors il y a dans l'idée d'une religion de salut l'idée d'un changement nécessaire. Les choses ne marchent pas, tout ne va pas bien, il y a du péché. Je suis très heureux que la question ait été posée par Jacques de la Rosière. Il y a du péché, il y a eu éventuellement une chute, il y a quelque chose qui s'est passé et il faut y remédier. Et à l'intérieur donc de cette idée fondamentale, on peut distinguer deux possibilités, tu les as distinguées très clairement, celle où on a besoin d'une aide extérieure, et puis celle où, tel le baron de Münchhausen, on se tire du bourbier en exerçant une forte traction sur sa perruque. Bon. Pour s'entraîner, donc tu as appelé ça, je crois, hétéronomie ou autonomie, bon, c'est très bien vu. On pense bien entendu à la plaisanterie de Jefferson au moment où le Congrès américain était arrivé à une situation impossible et où Benjamin Franklin a proposé des prières. Alors il a dit, nous n'avons pas besoin d'une aide extérieure. Bon, voilà le type même de ce que serait une religion sans aide extérieure. Et le bouddhisme, en tout cas le bouddhisme primitif, avant l'invention des Avalokitesvara et autres, avant l'invention des intercesseurs, représentait un exemple tout à fait juste de ce genre de religion. Donc merci pour cette typologie plus ou moins explicite, qui nous aide à vraiment penser de quoi il s'agit. Peut-être un souvenir personnel, si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas toujours, la première fois que j'ai entendu l'expression « religion de salut », c'était en cours d'histoire, peut-être bien au lycée, lorsqu'on nous parlait justement de l'irruption, cours d'histoire romaine, l'irruption des religions qu'on appelle les religions orientales, dont le christianisme, dans le monde romain, à la religion romaine qui avait pour but essentiellement le salut de la cité et puis éventuellement, par certains aspects plutôt tardifs, celui de l'individu. Bon, il s'agissait de religions, alors celle de Mithra, celle d'Isis, celle du Christ, qui avait pour but de faire en sorte que le sujet religieux se tire d'affaire. C'était dans ce contexte-là que l'on parlait. Tu as étudié au lycée Voltaire, je ne sais pas si tu as eu aussi un cours d'histoire romaine où l'on parlait de ça, mais enfin, je crois que c'était dans ce contexte-là que l'expression « religion de salut » apparaissait. D'autres remarques peut-être. Le christianisme est individualiste, tu l'as bien souligné, peut-être justement parce qu'il considère que celui qui doit être sauvé, ben c'est moi. Enfin, c'est chacun de ceux qui peuvent dire moi. L'attention se porte sur le salut de l'individu parce que nous ne sommes jamais sûrs que les autres, eux, aient besoin d'être sauvés. Alors que chacun de nous doit se poser cette question. C'est peut-être, je crois, la façon dont on pourrait expliquer, peut-être justifier, j'en sais rien, cette sorte d'individualisme peut-être propre ou pas propre, je n'en sais rien, au christianisme. Tu as eu une expression amusante, enfin tu as cité une expression amusante de certains historiens, l'islam comme régression. Alors ce qui est très amusant, c'est que c'est la manière même dont l'islam se comprend lui-même. Alors bon, évidemment, le mot régression a pris un sens péjoratif. Hein, alors en psychologie, par exemple, bon, Freud, lorsqu'il parle d'une régression, bon, ça veut dire que l'on rétrocède à des stades primitifs que l'on devrait dépasser. Mais l'islam se comprend lui-même comme un retour à une attitude religieuse, celle d'Abraham. Hein, tu as été professeur de religion abrahamique à Oxford et tu as eu la gentillesse de me laisser contribuer à un collectif que tu as publié sur cette notion. L'islam se comprend comme rétrocédant au-delà des déformations apportées à l'attitude religieuse primitive de soumission à Dieu par le christianisme et puis avant lui par le judaïsme. Donc si le mot régression n'était pas aussi négativement chargé, on pourrait tout à fait parler de l'islam comme une régression. Alors, retour en arrière, je ne sais pas, il faudrait trouver un mot qui... retour à l'essentiel... je ne sais pas, il faudrait trouver un mot là qui manque. Tu as parlé également, enfin, tu as cité également du christianisme comme religion absolue. Eh bien, j'aimerais reprendre ce terme. Je l'ai fait par ailleurs, par écrit, et un petit peu avec l'esprit affreux Jojo que tu me connais, et que je partage avec toi d'ailleurs, j'ai cette joie. On peut très bien parler du christianisme comme religion absolue en prenant le mot absolu au sens étymologique du terme, c'est-à-dire délié de tout le reste. J'ai soutenu quelque part cette thèse, évidemment là aussi paradoxale, que le christianisme est la seule religion qui ne soit rien d'autre qu'une religion. Alors que le judaïsme est une religion plus un peuple, que l'islam est une religion plus une loi, que le bouddhisme est une religion plus une sagesse, etc. Le christianisme, d'une certaine manière, n'est rien d'autre, ne prétend être rien d'autre qu'une religion. Alors je ne sais pas si c'est une thèse qui a une autre valeur que plaisante ou que provocatrice, mais enfin j'aimerais te la soumettre. Tu la connais d'ailleurs déjà, puisque je t'envoie mes textes et réciproquement. Donc, si tu veux, au-delà de Hegel. Voilà, j'ai fini ma question.
C'est pas vraiment une question à laquelle je peux répondre. Je vais faire simplement quelques toutes petites remarques, de façon pas organisée. Pour parler des religions de non-salut dans lesquelles le monde doit continuer, alors il y a un salut. Le salut, c'est le salut du cosmos, et il faut, par la pratique des rites, nous devons, les hommes doivent faire en sorte que rien ne change. C'est vrai dans la religion égyptienne, c'est vrai dans la religion romaine, c'est vrai dans la religion aztèque. Les sacrifices humains sont là pour que le monde, pour que le soleil continue à renaître demain matin. Islam, retour, oui, c'est aussi renaissance, c'est aussi l'idée de renaissance, retourner aux sources pour retrouver la véritable nature des choses. Sur le salut individuel dans le christianisme, on pourrait aussi, c'est vrai aussi dans d'autres religions, on trouve l'idée déjà à Qumran, l'idée de prédestination. On est sauvé ou non sauvé, non pas par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais par une décision pas arbitraire, parce qu'une décision divine n'est pas arbitraire par définition, mais par une décision secrète de Dieu avant notre naissance. On trouve ça dans certains courants protestants radicaux, et les croyants dans ces systèmes sont sans arrêt angoissés parce que rien ne peut leur indiquer s'ils font partie des sauvés ou des gens promus à la guéhenne. Alors, le christianisme comme religion absolue, religion intégrale, parce qu'elle n'est qu'une religion, l'islam est une religion, et c'est une religion qui implique aussi des lois, qui implique aussi une société ou des sociétés. Dans les différents instituts d'études islamiques, dans de très nombreuses universités, on pense à l'islam comme civilisation, pas nécessairement comme religion, mais la même chose peut être dite de ce qu'on appelait longtemps la tradition chrétienne de l'Europe, puis la tradition judéo-chrétienne, n'est-ce pas, quand on voulait absolument en exclure les musulmans. Donc il est difficile de prétendre, de dire que le christianisme n'est qu'une religion et n'a eu aucun, et qu'on n'a pas une des histoires culturelles chrétiennes. On pense à l'histoire de l'art occidental, par exemple. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en cette fin de séance.
Merci. Ben oui, effectivement, il nous faut bien arrêter. Aristote le disait déjà dans un autre contexte. Donc, ben, je vous remercie pour votre attention. J'espère que nous pourrons nous voir, enfin nous nous sommes vus, mais enfin nous voir in the flesh, en sarki. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous, enfin, en tout cas aux membres présents dans cette salle, à lundi prochain.
Oui, j'ajoute juste un mot, si tu me permets.
Bien sûr.
Nous avons un comité secret la semaine prochaine, très 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 important, puisque nous n'avons pas pu voter le budget au mois de décembre, faute de quorum à la commission administrative de l'Académie. Donc là, nous sommes assurés que nous aurons le quorum la semaine prochaine, le matin, à la commission administrative. Donc il nous faut voter le budget qui vous a été présenté avant les vacances, mais que nous ne pouvions pas voter. Voilà.